Génération Prestart. Génération Prestart. Try again. Try again.
Salut tout le monde, c'est Nelly. J'espère que vous avez passé un bon début de soirée sur M57 avec notre première partie d'émission de Génération Prestart. Maintenant, c'est parti pour Try Again, la partie plus rétro des jeux vidéo. Avant de commencer et de présenter toute ma petite bande qui est fidèle au poste, plusieurs petites nouveautés. Il y a un forum maintenant disponible au www.forumtryagain.com, tout ça en un mot.
Minuscule, attaché,
voilà,
tout ce qu'il faut.
Minuscule, tout ce qu'il faut. Où vous pouvez nous rejoindre en plus des multiples Facebook, Try Again, M57 Radio, les forums en tout genre. On est, je pense, vous l'avez remarqué, très disponible pour vous répondre et participer avec vous. Donc ce soir, toujours ma bande de mecs fidèles au poste. À ma droite, Lionel.
Bonsoir à tous.
À ma gauche, Martin.
Hello.
Et face à moi, Ellie, tous réunis pour parler rétro. Salut Ellie.
Le meilleur pour la fin, salut à tous.
Exactement. Et nous sommes aujourd'hui réunis tous ensemble pour parler d'un jeu qui nous tient vraiment à cœur parce qu'on a beaucoup pratiqué le mode multi ensemble. Et c'est Conquer Bad Fur Day. Et c'est Lionel qui s'en chargera aujourd'hui. N'est-ce pas Lionel ?
Tout à fait, je vous ai préparé des trucs sympas.
Voilà, donc on se met tout de suite dans l'ambiance, on se lance tout de suite une petite musique et on se retrouve juste après.
M57 Radio.
M57 Radio.
M57 Radio. Again. Try again.
Ce soir, nous écouterons les musiques de Robin Binland, le compositeur ou compositrice, je ne sais pas. Des musiques de Conquer. Et vous venez d'entendre Birdie, musique donc de Conquer. Avant de donner la parole à Martin pour l'insert coins, je parle un peu vite ce soir. N'oubliez pas que maintenant, comme d'habitude, vous aurez des CG codes à gagner à la fin de l'émission qui sont offerts par notre site partenaire culturegames.com. À toi de jouer, Martin.
Alors, ce soir, je vous ai préparé une petite surprise. Moi, quand je pense Conquer, je pense effectivement à Rare. Et j'ai aussi surtout pensé au cinéma, parce que dans Conquer, il y a beaucoup de références cinématographiques. Et donc, cinéma, jeux vidéo, ça existe. On a vu des films se passer. Et moi, j'aimerais surtout vous dire qu'en fait, partenariat entre le jeu vidéo et le cinéma, ça existe depuis longtemps. Donc, ce soir, on va jouer tous ensemble, vous trois avec moi, à Question pour un Otaku.
Ouais,
ouais. Le concept du jeu, je vais vous donner la description d'un film qui a été porté en jeu vidéo. Pour gagner un point, il faudra me donner le nom du film qui généralement est identique au nom du jeu vidéo. D'accord. Et je vais forcément vous donner des indices qui sont pas faciles.
Ah,
forcément.
Forcément, sinon c'est pas drôle. Hein. Donc on va commencer directement avec... vous voulez quoi, un simple ou un facile pour commencer?
Un facile.
Un facile?
Enfin simple, c'est pareil.
Ok. Donc, chez vous, en bas de votre écran, nous cherchons la version la plus belle et la plus chère de ce jeu. C'est un film américain réalisé par Ron Howard, sorti en 1988. Et j'ai été porté sur de nombreux supports et par de différentes compagnies. Tout d'abord, Mindscape s'est occupé de ses portages Amiga, Commodore 64, PC, Atari ST. Tandis que Capcom s'est occupé de la version NES et de la version arcade, ces deux dernières n'ont rien à voir, car le premier est un jeu d'aventure, alors que la seconde est un jeu d'action proche d'un Shomakaimur. Une trilogie de livres est publiée entre 1995 et 99 sous le nom des Chroniques of the Shadow Wars. Suivi le succès du film et l'histoire originale provient de George Lucas en personne.
La guerre des étoiles.
Perdu. L'ère de la Nouvelle-Zélande semble avoir été particulièrement propice propice au rapprochement puisque à la faveur du à la fin du tournage, Val Kilmer et Johan Wahlberry deviennent mariés.
Willow.
Stop. Bingo.
Trop bon.
Point pour Lionel. Un point.
Willow, trop bon.
Et donc,
j'ai failli dire Rapid Days. Hein,
non, c'était,
la,
c'était quelle version que nous cherchions?
Willow of Good.
Non, c'était Willow, mais c'était la version sur arcade. Parce que l'existe sur NES, c'est un jeu d'aventure et sur arcade, c'est un jeu comme les Goose and Ghost. En fait, tu joues, tu tires. Le jeu est magnifique, il est sublime vraiment. Essayez-le, c'est un excellent jeu.
D'accord.
Il
comme vaut, le film, quoi.
Il vaut très très cher. Par contre, la borne d'arcade elle se trouve, mais elle coûte dans les $500, quoi.
Ouais, c'est raisonnable.
Donc je vous passerai la fin que j'avais prévue dessus. C'est bien, nous avons déjà un gagnant pour un premier point. On passe au deuxième. Nous cherchons le premier portage du film en jeu vidéo. C'est l'indice.
Film en jeu vidéo.
Nous cherchons le premier portage du film en jeu vidéo.
Je comprends même pas les indices.
L'indice, ça veut dire qu'en fait, il y a eu plusieurs jeux vidéo qui ont été faits sur le film et on cherche juste la première version qui a été faite en jeu vidéo.
D'accord.
Ok, c'est ça. Sorti un 11 juin dans les salles obscures américaines, ce film de SF américain a connu plusieurs adaptations en jeu vidéo. En France, on a pu découvrir en avant-première lors du Festival de Cannes où il a été projeté le 26 mai. Le jeu recherché sur son support d'origine est la première adaptation du film en jeu vidéo qui a été publiée la même année que celle de la sortie du film. À cette année, j'avais un an. Ce film a connu multiples parodies comme Mac and Me ou Koi Mil Gaya de Lakesh Roshan pour Bollywood. Harrison Ford aurait dû apparaître dans le film en tant que rôle du directeur d'école. Un adolescent né sans jambes joue à une scène du film où le personnage principal est saoul et percute le réfrigérateur. À ce moment-là, la personne se déplaçait en fait sur ses mains. Le film est ressorti dans
L'exorciste.
Ses salles. Non. Le film est ressorti dans les salles pour son 20e anniversaire. À cette occasion, il a subi quelques modifications, dont le fait que le mot terroriste a été remplacé par hippie. Le film a reçu un nombre de récompenses, dont 3 Oscars. Autour du jeu règne une légende. Le jeu a été tellement mauvais qu'il ne se vendait pas et qu'il aurait été retiré de la vente pour être enterré dans un désert. Le jeu vidéo est sorti de même année. Bingo.
Ah,
E.T. Wow. l'extraterrestre.
Attends,
sur Atari 2600.
J'ai rien compris, moi j'étais à des kilomètres de ça.
Ah mais là, celui-là il était chaud.
J'ai bégayé sur le sans jambes.
J'ai trouvé parce que t'as dit qu'il a été enterré.
Voilà, c'est ça, c'était l'indice facile.
Oh là là.
Facile.
Il y en avait encore un, j'avais encore des indices après qui rendaient le truc un peu plus facile. Ah non, c'est
une légende, mais j'en avais entendu parler. Quoi.
Donc, un point.
On t'a pas un truc de fille,
un truc de fille.
Ok,
un truc de fille, c'est parti. Ce film a connu un remake américain. Voilà l'indice.
Total Recall.
C'est pas un truc de fille.
Ce film a connu un remake
américain.
Non, pas
Total Recall, je confonds. En plus, c'est la totale.
Non,
bon. Caméléon.
Film français d'Hervé Palu avec entre Miu Miu, Ariel Dombal et Jackie Berroyer. Le film a obtenu le trophée du film français en 1994 et le prix de Georges Beauregard en 1995 dans la catégorie meilleur producteur. Stéphane Marachaud, fringant boursier français, part retrouver son ex-femme pour lui faire signer l'acte de divorce et pouvoir se remarier. Mais il découvre avec stupeur qu'il est père. Il y ramène alors son fils à Paris, à la surprise de sa fiancée Charlotte.
Mon père, ce héros ?
Non. De sa fiancée Charlotte et de son associé Richard. Pas facile de garder l'œil sur un enfant qui sabote des projets de mariage. Édité et développé par Titus, le jeu est une exclusivité européenne et de surcroît, un jeu de plateforme relativement bien noté dans la presse. Il a reçu 89% dans le numéro de Joypass sorti en novembre 1995.
Et personne ne le connaît.
En 1997, Walt Disney Pictures a réalisé un remake américain
Freaky Friday
intitulé Un Indien à New York.
Un état de la ville.
Bingo. Un point pour
Nelly. C'était très dur. Ouais.
J'avais caché tous les indices sur celui-là, sinon c'était trop simple.
Ah, purée, ça va qu'il y avait Miu Miu.
Et ouais, voilà, tu vas.
Bien joué. Ouais, bon, t'avais pas sorti Thierry. Et c'était qui? Il y avait qui jouait encore?
Thierry Lhermitte, Patrick Timsit.
Patrick Timsit, ça aurait été un peu plus.
Alors, je crois que j'ai le temps d'en faire un dernier. Alors, je sais pas lequel je vais choisir.
Un facile.
Allez, pas forcément facile, c'est pas grave. Indice. Nous cherchons la seule version qui n'est pas restée exclusive à un continent. Je répète l'indice, nous cherchons la seule version qui n'est pas restée exclusive à un continent.
Elle commence bien.
Adapté de la nouvelle We Can Remember It for Wholesale de Philip K. Dick au Québec, le film aura pour titre Voyage au centre de la mémoire. Les jeux vidéo qui découlent du film ont été développés et édités par Océan. La version Amiga dispose de cheat codes permettant d'être invincible ou d'avoir des vies infinies. Ces derniers sont activés quand on les tape à des endroits précis du jeu et qu'on tape au clavier les commandes suivantes Listen to the Whales ou Jimi Hendrix. Le film fait suivre l'histoire de Doug Quaid, un habitant du futur en 2084. Où les efforts de la colonisation de Mars auraient été portés leurs fruits.
Total Recall.
Bingo.
Ah ouais.
Bah, Lionel.
Ça, j'y pensais aussi.
Je trouvais plus.
J'allais le dire. J'ai dit
la connerie tout à l'heure. Il y a bah voilà, deux minutes quoi. Donc
on en tente un dernier ou pas?
Vite.
Ok,
vite.
Parti. Nous cherchons les derniers portages en date arrivés près de 3 ans après le film. Le film est sorti en 1989 après de nombreuses adaptations vidéoludiques ont suivi comportant presque autant de développeurs que de supports où le film a été porté. Image fait, Torture, on s'en fout. Je vais aller un peu plus loin les indices. Alors, Draft a fait la version Super Famicom. Tous ces jeux sortent du lot car la version NES et Super Famicom ont beaucoup plus. J'arrive plus, je me suis mis en logé
PSO. C'est ça, d'essayer d'imiter Julien.
On va s'arrêter là. De toute façon, j'avais gagné 2-1 partout.
Si on sait pas quoi faire à la fin, on prendra. En attendant, ben, c'est fini.
Ouais, bah, c'est un petit peu la folie. Hein. Moi, je sais pas si je vais pouvoir me remettre dans le bain de la présentation. Si je me trompe pas, on va écouter Exit the Beach. On revient dans Conkers. Et puis, on se retrouve ensuite après.
M57 Radio. M57 Radio, première
radio numérique de Lorraine.
Première radio numérique de Lorraine.
Voilà de retour, ça y est, on a retrouvé un petit peu nos esprits après ce jeu fantastique. Désolée pour la petite coupure. Vous avez entendu Exit the Beach, toujours de Robin Binland. Et avant d'entamer notre Versus Mode Round 1, je me permets de vous rappeler qu'il y a une appli iPhone M57 Radio pour pouvoir écouter la radio pour ceux qui ont la chance d'avoir un iPhone. Et puis n'oubliez pas qu'il y a des CG codes offerts par Culture Games à gagner à la fin de l'émission. Allez, parole à Lionel, on entame le gros du sujet.
Donc voilà, je vais vous parler donc de Conker's Bad Fur Day, qui est donc un jeu d'action-aventure et de plateforme, puisque bon, ça mélange un peu les styles, sur Nintendo 64. Donc, il est développé par Rare et édité par Nintendo le 4 mars 2001.
Par THQ en Europe.
Aux États-Unis, j'allais lire par THQ le 6 avril 2001 en Europe. Donc on a eu un petit mois de battement, alors qu'à l'époque, c'est vrai que les jeux avaient tendance à se rapprocher. Donc on a effectivement, nous, une édition par THQ. J'y reviendrai un peu plus tard pour expliquer comment tout ça s'était passé. Donc Conker a fait une première apparition dans Diddy Kong Racing en 1997 en tant que personnage jouable, puis dans son propre jeu Conker's Pocket Tales sur Game Boy Color.
Est-ce que tu as dit qui est Conker's?
Un écureuil. Alors,
oui, Conker's est un petit écureuil rond.
Qui a l'air très mignon.
Oui, qui a l'air très mignon, effectivement, qui a des grands yeux, ça fait très dessin animé, un style très dessin animé. Très expressif, très kawaii, comme je l'ai déjà dit, terme que j'apprécie beaucoup. Kawaii. Et donc, alors à la base, Rare développe un jeu un jeu de plateforme à l'ambiance plutôt enfantine, qui devait s'appeler Conker's Quest, donc renommé par la suite 12 Stays Conker 64. Finalement, Rare décidera de changer radicalement de style pour faire de Conker un anti-héros par excellence. Donc violent, grossier, cupide, sont des qualificatifs qu'on peut vraiment attribuer à Conker parce que c'est vraiment il a vraiment un style à lui.
Que le physique ne change pas parce qu'il est toujours aussi kawaii, mignon.
C'est-à-dire qu'ils ont continué à développer dans le même univers, un univers tout mignon et tout ça à la base. en mettant du contenu un peu moins mignon dedans.
Un peu plus trash, on va dire.
Ouais.
Mais c'est ce qui fait son charme, en fait.
C'est ce qui fait le charme du jeu, effectivement, parce que bon, on s'attend quand on prend le jeu en main. Même par rapport à la jaquette, je veux dire, à avoir un jeu un peu. Quand on regarde les screens, on pourrait pas s'imaginer de ce qu'il y a dedans, quoi. Mais bon, je vais y revenir également. Donc, ce qui contraste, donc effectivement, le style du héros contraste vraiment avec les graphismes, donc qui eux conservent vraiment les traits de ce qu'ils étaient en train de développer à la base. Donc, voilà. Donc, le jeu aura même écopé d'une mention déconseillée au moins de 16 ans, ou M pour Mature Content aux États-Unis. Et Nintendo, qui avait édité le jeu aux États-Unis, sans pour l'avoir vraiment soutenu avec le bon marketing, on sait un peu ce que fait Nintendo quand ils croient pas trop à un jeu ou qu'ils sont un peu contre le contenu du jeu. Donc ils avaient quand même édité le jeu aux États-Unis, mais une fois le jeu sorti aux États-Unis, sans trop de pubs, sans trop de battage à côté, le jeu s'étant mal vendu, ils ont dit non, c'est pas rentable, on l'édite pas en Europe. Finalement c'est THQ qui a pris la relève. Mais pour ceux qui se rappellent un peu de l'époque de la Nintendo 64, les jeux, en général, les jeux éditeurs tiers, ce qu'on appelle éditeurs tiers, c'est-à-dire non édités par Nintendo, étaient souvent plus chers, c'est même des fois encore le cas, étaient plus chers que les jeux édités par Nintendo, qui étaient généralement proposés aux alentours de 450 francs. Les jeux éditeurs tiers étaient plutôt autour de 500, 550. Et là, Cars avait quand même eu la palme d'un des jeux les plus chers, je pense, de la Nintendo 64, en tout cas chez nous, puisqu'il atteignait la somme, coquette somme, on va dire, de 600 francs. Donc si on calcule par rapport à aujourd'hui, ça fait quand même 90 bons euros, voire un peu plus.
Ça
tape quand même assez cher.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, le jeu coûte toujours cher. Hein. Il est toujours recherché, donc il coûte toujours cher.
Il a été très peu vendu, de par son prix, de par son
contenu. C'est pas vendu, c'est très peu distribué.
Oui, très peu distribué. Il y a eu peu d'exemplaires, et en même temps, le jeu n'a pas forcément eu le succès qu'il aurait mérité, parce que il n'a pas forcément été
soutenu. Il est sorti en fin de machine de la console.
Il est sorti en fin de vie de la machine, oui. Il n'a pas été soutenu. Il y a plein de raisons qui font qu'il s'est mal vendu malgré quand même un contenu qui était pour public adulte. Alors c'est vrai que ça contrastait peut-être aussi avec le public habituel de la console.
Mais c'est ce que j'allais dire, d'habitude la N64 elle a toujours une image de console pour gamin, quoi, et avec des personnages tout mignons, tout gentils qu'on a habitué à voir à chez Rare, et là ça a clashé, quoi.
Donc voilà, pour l'anecdote d'ailleurs, je me rappelle que j'avais acheté le jeu sur j'avais précommandé même le jeu sur Amazon, parce que j'avais vu des previews et j'avais trouvé ça bien délirant, et j'avais précommandé le jeu sur Amazon quelques mois auparavant, avant sa sortie. Et le jeu à la base sur Amazon était quand même mis en vente à 450 francs parce que Amazon, s'attendant à ce qu'il soit aussi distribué par Nintendo, édité par Nintendo en Europe, pensait que le jeu allait être mis au prix habituel des jeux Nintendo, c'est-à-dire 450 francs. Donc
bien joué.
J'avais eu le droit à mon épisode à 450 francs quand même.
T'as quand même eu le droit à la risque.
J'ai eu le droit à la risque.
Ça, c'était pour son anecdote personnelle. Merci de d'avoir fait ton Ellie cette semaine.
Voilà, je tenais à le faire. Voilà, on va essayer. On va essayer de maintenir ce ratio, une anecdote personnelle par semaine. Donc voilà, donc là, alors la sortie tardive du jeu, donc effectivement fin de vie de la machine, la non-traduction du jeu en français, ça c'est quand même quelque chose, parce que le jeu contient des voix digitalisées. Alors ça c'est un phénomène exceptionnel sur Nintendo 64 qui a quasiment jamais été égalé, en tout cas dans cette proportion, parce que bon, sur Nintendo 64 on était limité par le support cartouche qui permettait pas de stocker autant que le CD, et on a aussi monté, et là on a quand même des voix digitalisées sur tout le jeu, et quand même avec beaucoup de lignes de dialogue, en tout cas pour le jeu question.
Il y avait un autre jeu qui m'avait fait cet effet sur une 64, c'était Shadowman, qui était un portage, qui n'était pas le jeu prévu à la
C'était aussi un jeu qui était sorti en fin de vie.
Aussi, il était sorti un peu avant, mais il y avait aussi tout ce côté avec des voix que j'avais. Moi, ça m'avait marqué. Je veux dire, pour un jeu 64, c'est pas du tout fréquent, et là, il l'avait aussi très bien fait.
Voilà. Par rapport à la traduction, c'est vrai que d'un côté, c'est un point négatif qu'il n'ait pas été traduit. D'un autre côté, il y a quand même beaucoup d'argot et beaucoup d'expressions. Et si on se débrouille en anglais, je pense qu'il est du coup plus cool en anglais qu'en français. Parce que je ne sais pas comment ils auraient traduit,
ça n'aurait pas été marrant.
Je pense qu'ils auraient dû conserver les dialogues de la sorte, mais au moins, ils auraient pu quand même au moins traduire les bulles. Parce que les personnages parlent, dialogue en audio, mais aussi ils ont une bulle qui s'affiche comme dans une BD avec leur texte dedans. Et là, ils auraient fait quelque chose. quelque chose d'un peu plus de traduit en français, ou voilà, on aurait eu quand même peut-être un peu plus d'accessibilité pour plus de public.
Au moins, comme ça choque pas les plus jeunes enfants français.
Ouais, justement,
c'est de l'anglais.
Quand tu compares Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie, ils avaient un humour tellement déjanté. Eux, ils ont été traduits avec le même principe, à savoir que les personnages faisaient juste des bruits et pas forcément des scènes de dialogue, mais que la traduction, elle était correcte et que du coup, tu comprenais les blagues, elles étaient bien traduites. Là, pour Conkers, on aurait pu partir du principe qu'ils auraient dû faire, enfin, qu'ils pourraient faire pareil. Ils l'ont pas fait. Voilà. Et peut-être que quelque part, c'était, si jamais un gamin tombe dessus, il comprendra pas ce qui se passe.
Oui, peut-être. Ouais, enfin,
peut-être.
Je pense que c'est plutôt qu'ils ont pas voulu investir et perdre de l'argent. Et qui sont dit on prend la cartouche telle quelle, on la met en version pâle et on la balance sur le marché, on verra bien ce que ça donne.
En tout cas, si vous parlez anglais, c'est un bon moment. Parce que si vous arrivez à traduire, c'est quand même.
Donc, grosso modo, effectivement, le fait qu'il n'ait pas été énormément distribué et tout ça, fait que ça n'a été pas forcément par la force des choses, ça n'a pas été excessivement vendu en France non plus. Et malgré la qualité globale du titre, parce qu'on notera quand même que le jeu a également une profondeur de champ énorme pour un jeu 64. Alors, ceux qui se rappellent du brouillard de la Nintendo 64,
une horreur.
Alors, c'était.
Non, moi j'aime bien.
Ouais, bon.
Alors,
voilà,
c'est mieux s'il y en a pas.
C'est quoi le brouillard de
Alors,
Nintendo
le brouillard,
64
c'est-à-dire que c'était une astuce des développeurs pour pallier au manque de mémoire de la console qui permettait pas d'afficher un champ de vision très, très long, quoi, en fait.
C'est-à-dire
qu'on avait. C'est comme si au loin, au lieu de. Quand on regardait le décor, on avait un brouillard qui s'affichait devant le décor et qui empêchait.
Qui nous évitait de faire un effort ou d'avoir à le faire.
Il y a un nom pour ça, je sais plus comment ça s'appelle.
Oui, c'est on a toujours appelé ça le brouillard, les effets de brouillard de la Nintendo 64.
Mais c'est ça que les bâtiments apparaissent, par exemple, au fur et à mesure.
Tout le monde critiquait ce genre de choses à l'époque, quoi.
Ouais.
Donc voilà.
Donc on s'arrête là pour l'introduction, c'est déjà pas mal.
Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'introduction. Je vais vous parler un peu du jeu en détail après.
Petite pause musicale, on va écouter Surf Punks, donc toujours tiré de Conkers Bad Fur Day. Et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie du Versus Mode Round 2.
L57 Radio.
Nous revoilà toujours sur M57 Radio. N'oubliez pas que sur le site www.m57.fr, je vais y arriver, vous pouvez vous connecter non seulement pour nous écouter, mais aussi aller sur le chat et communiquer avec nous, les dédicaces, etc. Donc amusez-vous à nous communiquer tout ce que vous pensez sur notre belle émission, j'espère. N'oubliez pas le forum tryagain.com. Et je redonne tout de suite la parole à Lionel qui trépigne d'impatience car il a encore plein de choses à vous raconter.
Exactement. Donc, le jeu en lui-même, on va y venir un peu plus dans le détail. Il est bourré de références de films et d'autres jeux vidéo dont Ellie nous détaillera tout ça tout à l'heure. Et je voulais également parler du titre du jeu. Alors, pourquoi Bad Fur Day ? D'où vient le Bad Fur Day ? Alors, c'est simple. En anglais, Bad Fur Day, fur signifie fourrure. Et il y a une expression anglaise qui existe qui s'appelle Bad Hair Day, donc hair qui signifie cheveux. Et c'est une expression utilisée en gros qui veut dire having a bad hair day, c'est avoir l'équivalent français d'avoir mal aux cheveux. Et donc comme Conker est un écureuil qu'il a pas des cheveux, il a une fourrure, bah voilà, bad hair day est devenu bad fur day.
Ça veut dire en gros
avoir la gueule de bois,
voilà,
quoi.
Qu'il a pris une grosse mine et puis que là il est encore peinté, quoi.
C'est un beau jeu de mots, hein. Vous voyez, comme quoi la traduction, je sais pas si on trouverait l'équivalent en français, hein.
Avoir mal aux poils.
Ouais, ouais, terrible.
Il a les poils qui poussent à l'intérieur.
Donc voilà, le jeu annonce direct la couleur, quoi, puisque avec l'écran de lancement du jeu, on voit un Conker qui arrive
avec une tronçonneuse.
Ouais, c'est-à-dire qu'on voit le logo de la Nintendo 64 habituelle, et Conker qui arrive avec une tronçonneuse et qui tronçonne le logo de la Nintendo 64 et l'éjecte de hors de l'écran pour ensuite placer le logo Rare en lastiquant un peu du coude, histoire de bien montrer la couleur que en
ils
gros
ils ont dû être contents chez Nintendo.
Voilà, ils tranchaient pour c'est le cas de le dire avec le
changement.
Voilà, ils tranchaient avec les lignes de conduite habituelle de Nintendo, quoi.
C'est l'anti-Mario.
Ah, c'est vraiment, on peut appeler ça l'anti-Mario, c'est vraiment ça, quoi. Et je crois même que Conker balance un stupid logo en balançant le logo Nintendo 64. Donc, le logo
pas
Nintendo.
Pas besoin de traduction, on a compris. Non.
Voilà, quoi. Donc, après une scène d'intro sympathique, on voit notre rongeur se prendre une bonne biture avec ses amis dans un bar. Le jeu commence avec notre écureuil complètement bourré qui cherche à rentrer chez lui. Alors, il se retrouve, on sait trop comment, c'est-à-dire, il est bourré, hein, forcément, dans une espèce de monde imaginaire. Alors, on sait pas trop, effectivement, dans Conker, s'il rêve, si c'est la réalité, si c'est le rêve, mais globalement, il est dans un monde un peu complètement déjanté, avec des trucs un peu bizarres, des animaux, il y a vraiment des drôles de références dans Conker,
les héros, les personnages, c'est tous des animaux déjà.
Il y a même des objets, il y a des objets, des végétaux qui parlent. Enfin bon, en gros, c'est vraiment on a presque l'impression d'être dans le délire d'un gars complètement cuité, quoi.
Alice au pays des merveilles.
Ou alors c'est le monde dans lequel il vit et puis un monde
déjanté. Pas vraiment, parce qu'Conker cherche son chemin, il a l'air un peu
de pas
savoir trop où il est ni où il va, quoi. Donc il s'est retrouvé là, en gros il s'est réveillé complètement beurré et puis il sait pas où est-ce qu'il est, quoi. Donc la première chose qu'on aura à faire en fait dans Conker, c'est trouver déjà on avance en titubant parce que il est bourré, et c'est de trouver une solution pour ne plus avancer
pour
réussir à marcher droit et à avancer correctement. Donc le but de Conker, en fait, ça va juste être de retourner chez sa copine Berry, mais en fait on se rendra compte au fur et à mesure que il y a même des pans de l'histoire qui se tiennent pas forcément. Parce que après, on se rend compte que sa copine Berry a été capturée. Enfin bon, ils ont rajouté toute une part d'histoire qui est pas forcément concrètement, qui est un peu bizarre. Alors déjà, le topic du jeu, c'est qu'on va on le sait pas parce que Conker a pas du tout conscience au début qu'il est la cible de qui que ce soit. Mais Conker va être la cible du roi panthère, qui a cassé son verre de lait en le posant sur une table bancale parce qu'elle n'a plus que 2 pieds sur 3. Et le scientifique du roi panthère va annoncer au roi que le seul moyen pour réparer le pied de la table, c'est pas donc d'aller prendre une table neuve chez Ikea ou d'aller se ramener un bout de bois et de clouer ça de fixer ça avec 3 vis. Non, le seul moyen de réparer sa table, c'est de placer à la place du pied manquant un écureuil roux.
Oui, parce qu'il a exactement la bonne taille.
Parce que de la taille exacte de Conker. Donc,
c'est génial.
Et de la bonne couleur.
Voilà, c'est l'absurde total. Donc pour montrer un peu l'absurde, alors, et puis pour montrer un peu le côté ridicule des jeux, avec, voilà, quand vous avez un jeu de plateforme, vous avez les machins qui flottent dans l'air.
120 étoiles pour avoir un gâteau. Ok, super.
Ouais.
On a compris quoi.
Ça, on a abandonné dans Conker la collectivité aiguë. La seule chose qui intéresse Conker, c'est l'argent. Tout ce qu'il veut, c'est trouver du pognon.
Comme dans la vraie vie.
Comme dans la vraie vie, ouais, si on veut. Mais globalement, les petites références rigolotes, c'est que, par exemple, dans un jeu, vous avez des trucs qui flottent et puis qui vous redonnent de la vie, quoi. Et ça s'explique tout simplement, en fait, dans Conker, dans Conker, c'est des carreaux de chocolat anti-gravité, qui sont en fait une invention ratée du professeur du roi Panthère et qui l'a balancé par la fenêtre parce que voilà ça avait strictement aucun intérêt, et donc c'est grâce à ça que Conker récupère de la vie. Il y a des carreaux de chocolat qui se retrouvent un peu partout dans le monde et qui redonnent de la vie, quoi.
Mais c'est comme du chocolat qui fait perdre du poids, alors anti-gravité sur la balance.
Alors effectivement, ils ont raté le chocolat là, Ethélie, c'est bien. donc effectivement, on se rend compte qu'on arrive dans un monde avec vraiment fantastique, un peu bizarre. On sera par exemple amené dans un premier temps à affronter une meule de paille, à faire exploser une souris, à rentrer dans une espèce de corrida. Il y aura des.
Dit comme ça, ça paraît con, mais ça marche.
C'est
que ça
énorme.
Marche, on rentre.
C'est-à-dire que le jeu a des liens un peu bizarres, des phases de jeu des fois un peu différentes, mais tout est ordonné d'une certaine manière et scénarisé d'une certaine manière qu'on se dit bah ouais, ok, c'est logique, on fait ça, après on fait ça. Oh, je veux dire, il y a quand même une chose qui parle clairement de l'absurdité de certaines choses du jeu. On va quand même affronter un ennemi dans le jeu qui s'appelle The Great Mighty Pooh. Alors, je sais pas si vous voulez la traduction.
Je m'en souviens.
Alors,
de la traduction pour les gens qui n'ont pas compris.
C'est la traduction littérale, c'est la grosse montagne, grosse montagne de caca. Ça, alors là, vous vous dites, mais ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors bon,
mais qu'est-ce que t'as fumé cette main?
Ah, mais c'est ça, c'est ça.
Non, c'est Conker.
Qu'est-ce que les développeurs ont fumé pour faire ce jeu, quoi. C'est-à-dire que vous affrontez, je crois, l'ennemi en lui balançant des rouleaux de papier toilette, quand même, quoi. Donc ils ont vraiment parti sur un délire. Alors avec des références scatologiques, des références à des films, du gore, du sang, des personnages qui explosent en mille morceaux. En balançant des giclées de sang un peu partout, enfin, c'est tout en restant dans un univers, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais kawaii au possible, quoi, avec des couleurs chatoyantes. Je veux dire, on se croirait dans un.
Je dirais pas kawaii, parce que kawaii ça fait fille, ça fait un peu rose, un peu bonbon.
Bah, c'est quand même pétant, quoi, c'est flashy.
C'est très coloré, avec des beaux personnages. On peut pas s'endormir en regardant les paysages, quoi. Je veux dire, de là à aller dire que c'est kawaii, peut-être pas, c'est pas mignon non plus. Le personnage est beau. C'est un petit écureuil.
Il est quand même mignon.
Mais le monde autour est pas tout rose. Voilà.
Donc, on aura quelques petits passages un peu plus orientés action. Alors là, on va se retrouver avec un Conker qui part plus ou moins contraint et forcé à la guerre. Et qui se verra en fait enrôlé de force dans une guerre qui ressemble étroitement à notre guerre de 39-45. Sauf qu'il affrontera des Teddies qui sont en fait des ours en peluche. Encore une invention ratée du professeur. Du savant fou, et pour finir par un braquage de banque musclé, accompagné cette fois-ci par sa copine Berry, qui finit par retrouver. Donc on a quand même des choses diverses et variées, des expériences de jeu sympathiques, des phases de jeu différentes qui font que malgré cet aspect un peu désordonné, comme je le disais tout à l'heure, ça s'enchaîne par chapitres. Donc on passe d'une zone à une autre, et puis en fait c'est comme si on allait dans des mondes un peu différents, on accédait à de nouveaux mondes, comme dans Mario, on va dans un monde qui se passe plutôt sur la plage, hein, plutôt dans les nuages, hein, plutôt par-ci. C'est un peu ça en fait, sauf que là ils ont encore en plus rajouté des gameplays un peu différents pour certaines phases de jeu, quoi.
Au niveau de la jouabilité dans tout ce foutoir là, la jouabilité sans s'en sentir comment?
Alors c'est assez marrant parce que par exemple ils ont incorporé un truc assez simple. Vous avez le bouton B dans le jeu sur la console,
sur la manette,
et qui sert quand on arrive sur une zone particulière qu'ils appellent une zone sensible au contexte, une context sensitive zone. En gros, C'est un peu comme dans les dessins animés quand le bonhomme, le personnage va sortir ce qu'il lui faut de sa poche au moment où il en a besoin, quoi.
Ah oui, je me rappelle, oui. C'est très drôle. Il a pas en fait d'objet.
Il a rien. Il collectionne rien.
Il va avoir l'objet.
C'est
utile.
Ça.
S'il va aller au bon endroit, il va appuyer sur le bouton. Voilà. Hop, il l'aura, quoi.
Il est dans un endroit où il y a de la flotte. Il a besoin de nager de manière. Il a besoin. Déjà, quand il rentre dans la flotte, automatiquement, il a des brassards parce qu'on se rend compte, il sait pas bien nager. Donc il y a des trucs comme ça. Enfin, ça fait très très cartoonesque. Il y a vraiment un esprit cartoonesque, mais déjanté, quoi. Je veux dire, on pourrait presque se retrouver un peu le cartoon. Plutôt à la Tex Avery, j'aurais dit, avec le loup un peu, voilà, parce qu'il y a quand même des références sexuelles aussi dans le jeu, forcément, ils en ont mis. On se retrouve quand même face à une plante à gros seins. Ok.
Une belle plante.
Voilà. Donc,
ils ont mis des tentacules.
Ils sont vraiment partis dans un délire absolu, mais pour donner au final un jeu excellent, techniquement abouti, vraiment une réussite sur la Nintendo 64 à l'époque, quoi.
Bah c'est pas pour rien qu'a pris réédité aussi.
Et c'est pas pour rien, on en parlera aussi. Mais, alors en plus de ça, cerise sur le gâteau, je dirais, ils ont mis un mode multijoueur.
Ouais.
Alors ça, le mode multijoueur, mais qu'est-ce qu'on a pu s'amuser dessus, parce que c'était vraiment... Alors il y a des modes différents. Donc ils sont jouables à 4, jusqu'à 4 joueurs, en écran splitté. Et donc en gros les jeux reprennent certaines situations et personnages de l'aventure. Donc par exemple on va retrouver alors le Deathmatch qui reprend un peu le principe du chapitre It's War, donc c'est la guerre, où le joueur a le choix entre 5 parcours dans lequel en fait il fait un Deathmatch, un match à mort contre les adversaires qui peuvent être dirigés. Alors soit on peut jouer seul, soit à plusieurs, mais pas trop dans ce mode, mais enfin on a pris. Et donc c'est vraiment du Deathmatch, c'est du match à mort, chacun pour soi, et donc on peut jouer contre d'autres joueurs humains ou contre l'ordinateur. Donc c'est vraiment, alors il y a d'ailleurs des bons délires dans le jeu parce qu'on peut prendre des armes à feu, quoi, mais aussi des armes du style un katana ou des couteaux de lancer. Alors sachant que le katana, faut être à proximité de l'adversaire, mais on lui tranche la tête en un coup. Donc évidemment avec une gerbe de sang et éventuellement la tête qui roule et compagnie. Donc c'est l'ennemi qui meurt dans des cris.
Les nounours, ils ont pas de sang.
Les nounours, ils ont une espèce de liquide visqueux vert qui coule effectivement quand
on les tue. Et le coton aussi, non? On voit pas un peu le coton.
Et on voit un peu le coton, ouais, et le rembourrage en coton.
Ah, c'est horrible.
Ils ont un langage, ils ont une voix, les petits nounours.
Ah ouais,
les nounours diaboliques, quoi.
C'est les nounours diaboliques qui ressemblent un peu, qui ont un peu l'accent allemand, qui font vraiment. Les nounours presque nazis, quoi. Malheureux, voilà. Donc. Ensuite, il y a un autre mode de jeu, alors qui nous a bien fait rire aussi, qui est assez sympa à jouer. C'est Heist. Et donc là dans le but du jeu c'est de réussir un braquage de banque. Donc ça va de récupérer des sacs d'argent et de les ramener dans son coffre ou quelque chose comme ça. Enfin de les sortir du coffre de la banque et de les ramener dans son camp.
C'est avec les fouines.
Oui, avec les fouines. Et donc du coup les joueurs se tapent dessus à coups de batte de baseball, ont des espèces de pétoirs qui ressemblent un peu aux pétoirs qu'on trouve dans les films de gangsters des années où ils reprennent les gangsters des années 50, Al Capone et compagnie, là avec le voilà. Donc
parce que dans l'histoire les fouines ont un peu le style
mafia, mafieux et tout ça. Donc il y a Raptor aussi qui dans Raptor c'est assez sympa, c'est d'un côté il y a les hommes de caverne qui doivent voler les œufs des dinosaures pour les faire cuire à la poêle et les manger. Bon, classique, voilà, ils ont faim, ils vont chercher à manger. Mais bon, d'un autre côté, il y a les raptors qui sont pas trop contents qu'on vienne leur piquer leurs œufs et puis ils feraient bien d'un casse-croûte de leur des hommes des cavernes. Donc certains joueurs peuvent incarner les raptors et d'autres les hommes des cavernes, et donc il y a un affrontement. Les hommes de caverne vont utiliser des objets des armes également pour dégommer les raptors. Et par contre, les raptors, eux, n'ayant que leurs griffes et leurs mâchoires, mais ça leur suffit amplement.
C'est déjà suffisant.
En général, ils tuent en un coup de croc et hop, plus d'hommes des cavernes.
Merci, au revoir.
Voilà, donc il y a Beach, alors qu'il y a un petit concept sympa aussi.
C'est celui qu'on a le plus joué d'ailleurs.
Oui, on s'est pas mal amusé dessus. Ouais. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les Teddies, donc les ours nazis, qui sont sur la plage dans des bunkers et qui doivent empêcher les souris. Des écureuils qui s'appellent les Frenchies. Donc c'est des petits écureuils français qui doivent traverser et arriver en dans leur zone, dans la zone ennemie, qui doivent pas traverser la zone ennemie en sécurité, en sachant que les T10 pour les avoir ont des snipers. En fonction de la zone où les T10 vont, ils ont sniper, une espèce de grosse pétoire, voilà, une espèce de tir de DCA presque, enfin un truc bien bourrin, et des bazooka. Donc en fonction du nombre de T10 qu'il y a, ça va défourailler les petits, en sachant que les écureuils peuvent se cacher dans le décor et avancer, reculer et se cacher.
Ils ont plusieurs chemins, faut les
voilà, ils ont plusieurs chemins, faut les voir.
On est quand même très loin, donc il faut essayer de les voir de loin, parce que aussi ils ont des tablettes de chocolat que un coup ne suffit pas toujours à les avoir.
Voilà.
Et puis on peut faire l'inverse.
On peut faire l'inverse, c'est-à-dire on peut incarner, et si on joue à plusieurs, bah une partie, la moitié peut incarner les T10 et l'autre partie les écureuils, et puis bah c'est du fight. Sachant que les écureuils, eux, ont accès à un bâton de dynamite qui fait exploser tout le bunker en fait, quoi. Donc quand ils actionnent la dynamite, ça fait exploser tout le bunker et ça tue les T10 et ça fait des points aux Frenchies en fait.
D'accord.
Donc voilà. Alors il y a encore d'autres petits modes de jeu sympas que j'écris rapidement. Donc War, qui est le principe du deathmatch, sauf que dans qui est divisé en deux modes: Total War, où les joueurs doivent libérer du gaz toxique pour éliminer tous les adversaires qui n'auraient pas réussi à atteindre la zone sûre ou qui n'auraient pas réussi à prendre un masque à gaz. Voilà, ben, tout en sachant qu'on peut aussi se tuer normalement, hein, avec fusil et compagnie. Ça donne un
J'aime
beau carnage.
Le normalement dans ta
phrase. Et Colors, qui est un peu un capture the flag, donc capture de drapeau.
Ça
oula.
Aussi, on a beaucoup fait.
Donc, ça, on a pas mal fait aussi. Ouais, donc, ouais. On va chercher le pot dans la base ennemie, on le ramène dans la sienne. C'est le grand classique du capture de drapeau.
Mais c'est toujours efficace.
Et deux autres petits modes, un peu plus anecdotiques, mais sympas aussi. Tank, donc c'est un combat de tank avec aussi une histoire de gaz qu'on peut libérer. Donc, il faut aller chercher son truc de gaz et le libérer dans l'atmosphère pour tuer les autres char et demi, et on peut aussi se tirer dessus à coups de boulets de canon. Et le mode race, un peu plus, bon, qui nous a moins passionné, qui est une course de surf sur la lave, mais bon, somme toute sympathique aussi.
C'est-à-dire que si on veut faire un jeu de course où il y a des jeux autres.
Oui, voilà, c'est pas
surtout
forcément.
Sur Nintendo 64.
Voilà.
Oui, voilà, exactement. Donc, mais voilà, donc voilà un peu tous les petits modes de jeu. Donc, le jeu solo, une aventure délirante, des références vraiment pour adultes, mais bien sympa à jouer. Et le mode multijoueur qui prolonge encore la durée de vie du jeu, qui donne un second souffle au jeu, et puis franchement qui nous a beaucoup amusé à l'époque, et qui vraiment a été sympa à jouer et nous a bien occupé certaines soirées.
Bah on sent qu'il y a du lourd et du cul derrière.
On sent, hein.
Ah ouais, non, des bons moments d'anthologie avec ce jeu. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec pendant des bonnes heures. Quoi.
Bah écoute, merci Lionel pour tout ce travail dans ton Versus Mode. On va s'écouter une petite musique, Enter the Vertex, toujours du jeu Bad Fur Day. Et on se retrouve tout à l'heure pour le Reload.
M57.
Un maximum de musique.
Un maximum de musique.
M57 Radio.
Hits and Move.
Hits and Move.
Génération Prestart.
Génération Prestart.
Nous revoilà déjà pour la dernière partie de notre émission, le Reload, qui va aujourd'hui être présenté par Ellie. Bientôt les CG, allez, encore un petit peu de patience, bientôt les points seront là, donc attendez et on écoute Ellie.
Alors pour ce Reload sur Conker's Bad Fur Day, je vais vous parler des références. Alors, deux types de références, en gros les références cinématographiques et les références de jeux vidéo. Alors pour les références cinématographiques, on voit par exemple des films d'horreur qui ont été repris. Bon, à chaque fois des films célèbres, comme par exemple Alien ou Alien le Retour.
Alien 2, ouais.
Ouais, voilà. Donc il y a effectivement le boss de fin qui est effectivement repris, mais c'est même pas du... Enfin, c'est du repris, c'est du repompé. C'est le... On affronte l'alien en fait en boss final.
Et il s'en cache pas.
Ah non, non, les références cinématographiques sont purement
sont
approuvées.
Assumées, hein.
Avec la même machine. Hein.
Ils ont eu le droit. Il n'y a pas eu de soucis au niveau des...
C'est de la parodie, c'est de la parodie, ça rentre dans le domaine de la parodie. Hein, donc
ouais. Quoi d'autre ?
Il y a eu Les Dents de la Mer, que tout le monde connaît, un vieux film avec les requins et tout ça. Avec le chien des mers.
Ouais, il y a une petite scène avec un ponton qui ressemble effectivement à une scène des Dents de la Mer, où on voit un chien des mers, donc oui, c'est des personnages de Conker, hein, faut pas chercher, qui arrive et ouais, qui fait avec la musique qui ressemble et qui donne cette impression qu'on va se faire dévorer dans les secondes qui viennent.
Next.
Est-ce que tout le monde connaît Dracula ?
Ouais.
Non.
Ah, immense chef-d'œuvre.
Je déconne.
Comme son nom l'indique.
Un peu ridiculisé Dracula d'ailleurs, parce que quand on incarne la chauve-souris, rassemble les paysans.
On incarne pas Dracula nous, hein. Ouais, c'est-à-dire qu'on se fait transformer en chauve-souris par le... Ouais,
par le comte
Dracula, le pseudo Dracula, oui.
Et on assomme les paysans à coups de
guano, c'est-à-dire de crotte de chauve-souris.
Ah, c'est
pour après, les ramener dans un gros pressoir. À humains en fait, hein. On met les humains dedans et puis il leur sort le jus pour alimenter la chauve-souris Dracula, quoi.
Ah, quelle horreur.
Ah oui, non, et... c'est bien, quand je dis que c'est gore, hein, le Conker.
Ouais,
pas
c'est
problème.
Drôle, assommer les paysans à coups de crotte, quoi.
C'est assez drôle, effectivement.
Est-ce que vous vous souvenez de la petite fille et de l'ours géant ?
Non.
Alors,
dans ça me dit rien, ça.
Référence à L'Exorciste.
Ah, d'accord. J'ai cru que c'était okay. Un titre de film. J'ai
raté celui-là. Non, j'ai versé cette fois-ci.
Non, il y a une scène du jeu comme ça où il y a aussi les Teddy's qui font des expériences avec. On voit un passe dans une espèce de laboratoire où ils font des expériences bizarres. Enfin bon.
Ouais. Et la scène du débarquement, à votre avis, c'est tiré de quel film ?
Facile. Il faut sauver le soldat Ryan.
Voilà, exactement.
Ouais. Alors, c'est vraiment. Exceptionnellement fait, il y a vraiment une scène. Enfin, la mise en scène du jeu reprend vraiment quasiment au très près la scène du débarquement du soldat Ryan, quoi. C'est vraiment super bien fait.
Parce qu'il est assommé, il arrive et il se réveille
dans la barge. Il se réveille dans la barge et quand il arrive, il débarque directement dans l'eau et là t'as tout.
Il est sonné,
il y a, les effets sonores comme dans le soldat Ryan quand il arrive sur la plage et qu'il est complètement un peu assommé. Par tout le bruit
assourdi,
et tout ça, assourdi, et on a tout le son qui est à moitié comme étouffé, et on retrouve exactement le même schéma.
C'est pour faire réaliste.
C'est
vraiment génial.
Fait,
ça, ouais. Donc, ouais.
Et Indiana Jones, c'est la dernière croisade.
Ouais, il y a certaines répliques qui reprennent. Enfin, des fois, les références sont pas forcément aussi parlantes. Par exemple, il faut sauver le soldat Ryan. Je veux dire, quelqu'un qui a vu le film repérera directement. Enfin, on peut pas la rater. Par contre, des fois, c'est juste une petite réplique d'un personnage qui rappelle ou qui donne un peu le truc. Et là, c'est effectivement dans dans le niveau histoire, il y a des petites répliques comme ça qui refont penser au jeu, quoi, et au film.
Et vous vous souvenez du moment où on habillait tout en noir, en cuir, et qu'il y a des ralentis Matrix.
Ouais, c'est là.
À la fin du jeu, ouais.
À la fin du jeu, quand on arrive pour faire le casse de la banque, et là, c'était d'ailleurs la musique qu'on a entendue avant, c'est l'entrée dans ce qui s'appelait Enter the Vertex, qui est en fait la musique où on arrive dans la banque avec notre costume noir, et là où les deux personnages, Conker et Berry, sortent leurs armes et commencent à défourailler dans tous les sens.
Donc, des cabrioles de mémoire.
En faisant des cabrioles avec les effets de ralenti, etc.
Avec le bullet time et tout ce qu'il faut.
Ouais, avec les coups. Les ralentis, les coups de pied sautés et compagnie.
Et au cimetière, vous vous souvenez des zombies qu'il faut tuer ?
Eh oui,
alors c'est quoi ? C'est quoi comme
La
référence ?
Nuit des morts vivants.
Ouais. Ouais. Romero, ça, non ?
Le film ? Oui, normalement, oui.
Je crois, hein.
Il me semble.
C'est toi le spécialiste
film. Oui, mais j'ai pas vu celui-là, je l'ai pas vu, donc...
Oui, non, mais
je n'ai pas vu tous les Romero, j'en ai vu quelques-uns, mais pas tous.
Tu auras un devoir pour la semaine prochaine, regarder ce film pour rattraper ton retard.
Oui, maîtresse.
Très bien.
Et pour les scènes et musiques de début et de fin de jeu, pour les cinéphiles que
Alors, il semble que celle de départ, c'est de Stanley Kubrick avec Orange Mécanique, où on le voit en blanc, assis avec une sorte de verre, et ses compatriotes aussi habillés pareil, c'est comme ça, dans Orange Mécanique.
Qui ressemble un peu, effectivement, avec la même musique, d'ailleurs, qu'on a entendu dans le premier bed, dans le deuxième bed, pardon. Enfin,
On l'avait en bed avant.
On l'avait en bed avant dans l'émission. Donc, effectivement, il y a cette petite musique.
Et pour la fin, tu nous l'as spoilé avant, c'est Alien 2, non?
La fin, apparemment, c'est aussi Orange Mécanique.
La fin aussi ?
Non, c'est-à-dire que le jeu commence, la toute première scène du jeu, c'est la scène de fin, en fait. Première scène qu'on voit dans le jeu, c'est Conker à la fin du jeu, qui est roi du monde.
Oui, je me souviens de cette image que tu vois sur son
centre de trône. Et Conker nous explique il nous raconte qu'il va nous expliquer comment ça lui est arrivé de devenir roi de ce univers.
Vous avez raconté la fin du jeu.
Spoiler ! On
n'a pas raconté la fin du jeu, puisque c'est les premières secondes du jeu quand on le lance. Donc,
Avez raconté le début du jeu.
Mais c'était un spoiler, fallait pas nous écouter ce soir.
Un spoiler alerte, on a
raté la balise.
Autre de ces nombreuses références cinématographiques, vous vous souvenez dans Reservoir Dog, à un moment il se donne des noms de couleurs, Monsieur
Mister
Black.
Pink.
Ah, je voulais être Monsieur Black, c'est plus cool. Bah là, c'est pareil.
Ils ont fait la même chose avec les fameuses fouines dont on a parlé, qui sont repris dans le mode multijoueur Heist également, et qui sont aussi dans le braquage de banque. Donc, il y a plein de références. Donc, il y en a encore d'autres d'ailleurs. Ben, c'est pas forcément dans l'ordre chronologique, mais il y a quoi? Il y a le robot. On affronte pas un robot à la base, mais on affronte une meule de foin qui s'avère être un robot.
D'accord.
Et ce robot a une vision thermique un peu, et vraiment avec le terme qui s'affiche en dessous.
Ah, comme un Terminator quoi.
Comme un Terminator.
Ok.
Donc ça fait vraiment.
Le tas d'excréments, il dit quoi à la fin quand on le tue?
Tu vas me dire que le tas d'excréments, c'est une référence.
Il chante durant le combat,
c'est
non?
C'est vrai qu'il chante.
Ouais. Oui. Dernier mot, quand tu vois, en fait, ça fait une référence à qui
ça
veut la
fait une référence
de Roger
à qui la peau de Roger Rabbit. Quand t'as le méchant de Roger Rabbit qui fond, je fond, mais quel monde.
Ouais. Génial.
Les toons qui fondent. Ouais.
Voilà.
Et une référence également à Terminator, le boss robot
sous le
Terminator, ça on n'a pas précisé.
T'écoutes pas ou quoi là?
Autant pour moi. Référence à Docteur Folamour aussi.
Ah, ça c'est plus ancien, alors je sais pas si on connaît trop.
Ouais, c'est le professeur Folding, quoi. Le professeur un peu. Le professeur Folamour qui est un peu.
Il a pas deux personnalités.
C'est le professeur de. Ouais, non, mais là c'est en fait les références au Docteur Folamour, c'est le professeur dont je parlais tout à l'heure, du Roi Panthère, un peu.
Qui invente des trucs.
Et lorsque Conker choisit un katana à la fin du jeu, c'est
spoiler, attention, n'écoutez pas. Ouais, en fait, pour la scène de fin, Conker a choisi.
Ça existait déjà.
Pulp Fiction. Non.
Ah, Pulp Fiction.
Kill Bill, c'est plus récent.
Ah, bah ouais, mais je tente, moi, après, je joue, moi.
Ouais,
Kill Bill. Le jeu début, Nelly.
Ouais, bon.
Et il y a également des références à des jeux vidéo qui nous concernent plus, d'ailleurs.
Vas-y, dis-nous lesquels.
Par exemple, quand il fait le combo de Fulgor, c'est une référence à
Killer Instinct.
Bien joué.
Voilà, donc en gros, quand dans le combat final, on peut faire un combo,
arrêtez
le combo de Fulgor.
Spoiler, c'est pas possible.
Trop tard, on a commencé, on arrête.
C'est pas grave,
allez, on vous montre pas l'image, promis.
Ouais, voilà.
Et une référence à Resident Evil, dans l'arrivée du manoir du comte.
Exact. Ouais, non, c'est clair, on a pas mal de références, il y en a aussi il y a le fait que Conker se déplace aussi comme Sonic.
Ouais, ça c'est la prochaine justement que j'allais vous faire découvrir. En fait, comme Tails, il fait l'hélicoptère avec sa queue.
Ah oui, c'est vrai. Tails faisait ça, exactement.
Next.
Alors Super Mario 64.
Pourquoi?
Alors le boss de fin se bat pratiquement de la même façon que celui de Mario.
Spoiler.
C'est pas possible, ouais. Sarah.
Non, mais dis qu'on est des spoilers jusqu'au bout, Nelly, c'est foutu.
C'est toi qui as demandé. Hein.
Mais les gens, ils restent pour les CG codes, ils sont obligés d'écouter.
Moi, je veux entendre sa rubrique, mais il avance pas.
Ah bah, il faut du temps, hein, qu'est-ce que tu veux. Lorsque Conker monte à l'échelle de la grange, Donkey Kong, c'est parce que c'est les mêmes guêpes.
Wow,
en
dis
fait.
Donc.
Les mêmes guêpes, on les reconnaît quand même.
Ouais, c'est vrai.
Bon, allez, Juken, dans quel jeu on trouve ça?
Street Fighter 2. Vas-y, continue.
On retrouve également une référence à Banjo et Kazooie, la tête de Banjo en tant que trophée.
Oui, en parapluie.
Alors ouais, je me suis amusé à retrouver ça. Effectivement, au-dessus de la cheminée, il y a une tête de Banjo. Et quand on va dans le mode pour rejouer scène du jeu, puisqu'il y a un mode en fait dans le jeu où on peut rejouer chaque scène du jeu, reprendre chaque scène du jeu qu'on a déjà fait évidemment. et la rejouer indépendamment les unes des autres. Et ben là, dans le petit couloir qui nous mène à cet endroit-là, il y a un range-parapluie avec Kazooie qui est en parapluie, en fait.
D'accord.
Pratique pour pas se mouiller.
Exact.
Alors, il y a eu des remakes de jeux. En 2005, sur Xbox, il y a eu Conquer Live and Reloaded. Bien, on parle de ça dans le Reloaded.
Tout à fait.
Ouais, mais c'est un jeu qui a été ironiquement plus censuré que la version originale, alors qu'il est sorti sur Xbox.
Qui est censé être une console quand même plus publique adulte. Donc c'est quand même étonnant, quoi.
Bah écoutez, tout ça a été bien intéressant. On sent la passion autour de ce jeu. Moi, il me reste une minute pour vous donner les CG codes offerts par culturegames.com.
Le code ce soir
cette
est...
Cette semaine, le code est... Berry, B-E-2-R-I, c'est le nom de la petite copine, si vous avez bien
tout
entendu.
En minuscule. Voilà.
Tout en minuscule.
Sur le site, donc.
R-R-I.
Culturegames.com.
Exactement. Et puis nous, on vous retrouve toujours avec plaisir sur les pages Facebook de la radio M57. Sur nos pages Facebook, Try Again et nos différentes pages à nous, les animateurs. On est toujours présents sur le chat. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, il me reste à annoncer l'émission de la semaine prochaine qui sera normalement sur Légende de Thor.
Sur Mega Drive.
Voilà.
La Légende de Thor.
La Légende de Thor. Et puis, on se quitte sur la musique Bats. Voilà, voilà. Bisous à tout le monde. À la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
Salut à tous. M57 Radio.
M57 Radio.
M57
Prestart. Génération Prestart. En partenariat avec culturegames.com. Game over.
N57. Plus proche.
Plus proche.
Plus proche de vous.
N57.
Fréquence, l'émission la plus hip-hop que hip-hop. Scud en fréquence, l'émission la plus hip-hop que hip-hop.
Le pas à pas peut commencer.
Yeah, yeah. Bonsoir tout le monde, c'est ce que dans Vrac Fréquence, l'émission la plus hip-hop que le hip-hop. C'est la 10ème émission sur M57.fr avec DJ Majono Platine
et NEHS au chrome.
Yes,
les man.
Comment
bonsoir,
c'est gros.
Bonsoir, bonsoir. Ça va et toi, mec?
Bah, ça va, un peu malade, mais ça va, tranquille.
Tranquille, mais toujours ouais. OP.
Toujours OP pour ah. Du bon hip-hop et de la bonne musique. Je sais comment que c'est. Attends, ouais, c'est normal.
Normal, c'est tout normal. À fait normal. Au menu ce soir.
Au menu ce soir, première heure, ta playlist.
Ouais.
Du rap américain, comme d'hab,
comme
10
d'hab.
Ans d'âge.
Old school.
Entre bah, autres.
Entre autres. Ouais, on essaye.
Entre tout de suite après, on va dire.
Le point culturel.
Point culturel le avec point les bons culturel. Plans. Et là, c'est hip-hop.
Ah ouais. Attention.
Là, les man, on peut pas faire mieux.
Là, franchement, on a bien trouvé. Parce que là, on a chiné du lourd quand même.
Ouais. Là, on peut pas faire mieux. Ça sera hip-hop. Enfin, bref. C'est dans une heure.
À faire suivre.
Et après, ma